Chapitre 10. Aussitôt après avoir reçu la lettre de sa cousine, Paul s'était empressé de partir. « C'est la première fois qu'elle m'écrit, pensait-il. Elle réclame ma présence. Je serais trop heureux si je pouvais lui être utile à quelque chose. » À peine fut-il arrivé, à peine eut-il échangé quelques paroles avec Clémence, que sans hésiter, elle lui dit « Paul, m'aimes-tu toujours ?» Paul fut d'abord si surpris, si bouleversé par cette question inattendue, qu'il n'eut pas la force de répondre. « Réponds-moi franchement, » répéta sa cousine. « Pourquoi me fais-tu cette question, Clémence ? » dit-il enfin. « Pour que tu me répondes. » « Dans quel but ?»« Dans le but, si ta réponse est affirmative, de te dire « Paul, voici ma main, veux-tu l'accepter ?»« D'où vient ce changement ?» exclama Paul, dont la voix tremblait d'émotion. « Est-ce un dépit amoureux qu'il faut l'attribuer ? Tu as aimé un autre homme que moi, Clémence ?» Je serai franche avec toi et je te répondrai que tu ne te trompes pas. Mais avec cette même franchise que je mets à l'avouer, j'ajouterai que cet amour n'existe plus et qu'après avoir mûrement réfléchi, j'ai la conviction que toi seul peux me donner le bonheur tel que je le comprends. Ne va pas croire cependant que le sentiment que je t'offre puisse être attribué au dépit ou à toute autre mauvaise passion. Non, il réfléchit, il vient d'une profonde conviction, mûrie par l'expérience, au souvenir de notre saint oncle, dont les conseils ont éclairé ma raison, comme le soleil parvient à percer au milieu des nuages. Et si je m'offre à toi pour devenir ta compagne, je n'ai pas besoin d'ajouter, Paul, que je m'offre pure et sans tache, comme il convient à une femme qui sollicite l'honneur de porter ton nom. Ainsi tu m'aimes, Clémence ? Demanda Paul, profondément ému. Je t'aime, Paul, avec un cœur ardent qui aime la vertu, avec le cœur d'une femme qui choisit librement son maître devant Dieu et devant les hommes. Unis ensemble, s'écria Paul d'une voix étouffée par l'émotion, unis pour toujours, irrévocablement, sur la terre et dans le ciel. Oh mon Dieu, c'est trop de bonheur! Et poussé par un irrésistible élan, Paul se jeta aux pieds de Clémence en couvrant de ses mains son visage baigné de larmes. Paul, dit au bout d'un moment Clémence qui partageait son émotion, parle-moi franchement. Quelle chose dans moi t'a inspiré tant d'amour? Tout, sans rien pouvoir préciser. Je t'ai aimé parce que tu étais toi. Est-ce ma personne? Est-ce mon esprit qui t'ont charmé? Tout charme en toi, Clémence, et j'aime tout en toi. Qu'une maladie t'enlève ta beauté, tu ne m'en plairais pas moins, je t'aimerais encore, même morte, comme je t'ai aimée quand je te croyais à jamais perdue pour moi. Voilà le véritable amour, s'écria Clémence attendrie, en pressant, dans ses mains blanches et délicates, les rudes mains de son cousin. Paul dîna chez Clémence, et le soir, Don Gallo vint faire sa visite habituelle. Clémence était radieuse. « Vous êtes bien gai ce soir, » lui dit Don Gallo en dégustant un verre de cette excellente liqueur qui se fabrique à Puerto Santa Maria. « Je suis comme les enfants, mon vieil ami, malgré mes 6 Olympiades. Dût-on me traiter de bas bleu pour employer cette expression ? Oui, je suis gai et heureuse aujourd'hui. Et savez-vous pourquoi ? Je ne devine pas, cher ami. C'est que, lui dit Clémence tout bas à l'oreille, c'est que je me marie. Je ne veux ni ne peux taire cette nouvelle à un aussi bon ami que vous. Don Gallo fit un tel mouvement de surprise que la liqueur contenue dans son verre subit toutes les oscillations du flux et reflux de la mer. Don Gallo s'était toujours figuré que Clémence sur la terre, ainsi que les étoiles au ciel, occupait une place inamovible et qu'un changement dans l'une d'elles ne pouvait provenir que d'un cataclysme dans l'ordre établi. D'ailleurs, pour Don Gallo, l'annonce d'un mariage dans le cercle de ses connaissances rouvrait toujours une blessure mal fermée. Aussi s'écria-t-il « Vous vous mariez? Est-ce bien vrai ?»« Et pourquoi non, mon vieil ami ? Les bas bleus, à part leurs autres infortunes, auraient-elles le malheur d'être immariables ?» Quel est l'heureux vainqueur? Heureux, et sur ma foi, il le sera. L'heureux vainqueur, pour me servir de vos expressions, est monsieur, que j'ai l'honneur de vous présenter, Paul de Guévard, mon cousin, et d'aujourd'hui, je l'espère, l'ami de mes amis. » Paul tendit en souriant la main à Don Gallo. « J'en suis charmé, tout est pour le mieux, » murmurait Don Gallo d'un air étonné. « Je prends part à votre bonheur, je m'en réjouis. Les Guévard sont des gens prédestinés. » Et tout en examinant la personne de Paul, dont le costume ne ressemblait nullement à celui d'un dandy, Don Gallo se disait à lui-même « Comprend-on les caprices des filles d'Ève ? Cette Clémence qui aurait pu choisir parmi la fleur des pois de Séville ? Et d'ailleurs, quelle idée de se marier ! À quoi bon ? N'était-elle pas heureuse ?» Don Gallo, ajouta Clémence, c'est un grand secret que je vous ai confié, et cependant, peu m'importe que tout le monde l'apprenne. Je le cacherai cependant à bien des gens, répartit Don Gallo de son ton le plus galant et avec son plus malicieux sourire. Je n'aime pas à être porteur de mauvaises nouvelles. Allons, ajouta-t-il en lui-même, en regardant à la dérobée Paul qui s'était mise à écrire. Allons, des goûts et des couleurs, il ne faut pas disputer. Puisque Clémence l'a choisi, il faut bien qu'il ait quelque valeur. Seulement, plus je le regarde, plus je me confirme dans l'opinion que cette valeur ne saute pas aux yeux. Dans la soirée, Don Gallo alla plutôt que d'ordinaire chez Madame de la Tirère. « Je vais, dit-il, même avant d'avoir pris un siège, vous apprendre une chose qui n'a pas encore circulé nulle part. » Les questions tombèrent aussitôt comme grêles sur Don Gallo. La chose est-elle triste, est-elle gaie, authentique ou apocryphe? Vient-elle de loin ou de près, par la poste ou par le télégraphe? La nouvelle, dit Don Gallo, après avoir laissé le silence se rétablir pour donner à sa réponse la solennité désirable, la nouvelle est inattendue, imprévue, surprenante et ébouriffante. « Dites-la donc tout de suite !» s'écria Lolita. Don Gallo mit au jour son plus gracieux sourire et garda le silence. « Don Gallo, dit un des assistants, vous êtes comme le tambour, prêt à battre et ne battant pas. »« Don Gallo veut être député, dit un autre, il s'essaie à produire de l'effet. » « Laissez-la ce mystérieux pendre avec son prétendu secret, » dit Lolita. « Horace, contez-nous ce qui s'est passé hier à la représentation de la pièce nouvelle. » En se voyant d'interpeller sur la pièce à la mode, Horace se mit à en fredonner une ariette. « Les filles sont d'or, les femmes sont d'argent, les veuves de cuivre, les vieilles de fer blanc. »« Pure flatterie pour les jeunes filles, » dit Lola. « Les charmes des veuves sont bien plus attrayants. » Don Gallo, charmé de rattraper l'occasion qui allait lui échapper, saisit la balle au bon. C'est précisément d'une veuve qu'il s'agit, et du mariage d'une certaine petite dame. Qui est la malheureuse ? Dirent les dames en chœur. Quelle est l'infortunée ? Ajoutèrent les hommes. En finirez-vous, Don Gallo ? S'écria Lolita. Don Gallo, qui voyait pour la seconde fois l'attention se détourner de lui, s'empressa de répondre. « Eh bien, c'est Clémence qui se marie. »« Avec Monte Cristo ?» demanda en se retournant brusquement la rieuse enfant. « Avec Charlemagne ?» ajouta un autre. « Ni avec l'un, ni avec l'autre, » répondit Don Gallo d'un air triomphant. « Alors, c'est avec vous, » dit Lolita en éclatant de rire. « Un tel bonheur ne m'était pas réservé, charmante Lolita, » répondit sérieusement Don Gallo. « Du reste, vous savez que je n'ai pas de chance, et d'ailleurs, ma position ne me permettrait pas d'aspirer. » « Épouse-t-elle son cousin Cortegane, qui vient d'arriver à Séville ?»« Non, elle épouse notre cousin de Villamarie, Paul de Guévard. » Comment ? Ce campagnard que j'ai vu chez elle hier au soir, qui porte ses gants à la main comme un cierge et ne sait pas même dire un mot ? Voyez-vous ça ? À qui diable le bas bleu a-t-il été s'adresser ? Je croyais, moi, qu'elle épouserait l'Académie. Moins on vaut, plus on obtient, opina un plaisant. C'est égal, ajouta une vieille dame. La petite veuve n'est pas si sotte. Campagnard ou non, ce Guévard a hérité de son oncle Don Martin, et il avait déjà une belle fortune. C'est un fort beau mariage. « C'est bien l'opinion la plus fausse du monde, dit un magistrat, ami de Clémence, de croire que parce qu'une femme a de l'esprit et de l'instruction, elle doit avoir aussi du savoir-faire. Ce talent, qui suppose l'astuce et le calcul, n'est pas et ne peut pas être le propre des femmes instruites. Croire à semblable chose de la part de Clémence, c'est la méconnaître entièrement. « Vous prêchez admirablement, monsieur, fit aigrement observer la maîtresse de la maison. « Monsieur n'a dit que la pure vérité, répliqua Don Gallo. Ce qui n'empêche pas, saint homme, ajouta Lolita, que Clémence Ponce n'en sache long et n'en donne une preuve en épousant ce Crésus qui fera des économies dans son village pendant qu'elle les dépensera à Séville. Clémence n'est pas dépensière, dit Don Gallo. Bah, parce qu'elle n'avait pas assez de fortune pour mener grand train. Son beau-père y avait mis bon ordre en ne lui laissant rien, pas même une pension. Elle n'avait que ce que lui a laissé son oncle l'abbé, dit madame de Tirère. Et de plus, un douaire considérable que lui avait constitué l'héritier, dit malignement une vieille dame. Douaire que Clémence refusa d'accepter, je le tiens de sa tante, riposta Don Gallo. C'était semer pour récolter, dit une vieille fille. Une belle récolte, dit Lolita en éclatant de rire. Tels sont les jugements, tels sont les arrêts du monde. Telle est l'inconcevable et malveillante légèreté avec laquelle on juge les personnes en dénaturant leurs intentions. Tels sont les éléments dont on prétend former la chose la plus délicate au monde, l'opinion. On reproche aux hommes de notre époque de ne pas assez tenir à l'opinion qu'on peut avoir d'eux. Comment s'en étonner quand la malveillance et la calomnie ont usurpé les droits sacrés de la justice et de la vérité ?